Nous allons parler de l'apôtre Paul, et pour parler de l'apôtre Paul, deux textes. Un premier texte dans le livre des Actes, qui nous relate sa conversion, en tout cas c'est comme ça qu'on l'appelle de manière commune. Donc ça c'est la version qu'on trouve dans le livre des Actes. Et puis un deuxième texte de Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 12. Et là c'est Paul qui nous raconte sa conversion de son point de vue. Vous verrez que c'est pas tout à fait la même chose. Donc dans le livre des Actes, ce texte assez connu puisqu'il a été illustré par de nombreux peintres. Vous ferez bien attention, il n'y a pas de cheval dans le texte, mais bon, c'est pourtant comme ça qu'on représente Paul. Cependant, Saül, il s'appelait encore ainsi, Saul qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. S'il y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui étaient de la voie, c'est-à-dire chrétiens, il pourrait ainsi les arrêter et les amener à Jérusalem. Il était en chemin et approchait de Damas, quand soudain, une lumière venant du ciel resplendit tout autour de lui. Il tombe à terre et il entend une voix qui lui dit « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ? Moi, je suis Jésus, que toi, tu persécutes. Mais lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce qu'il faut que tu fasses. » Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours, sans voir et sans rien manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision « Ananias ». Il répondit « Je suis là, Seigneur ». Le Seigneur lui dit « Va dans la rue appelée la droite et cherche, dans la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse, car il prie. Il a vu en vision un nommé Ananias qui entrait et lui imposait les mains pour qu'il retrouve la vue. Ananias répondit « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup de gens tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Ici même, il a été investi par les grands prêtres de l'autorité pour arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et les rois, comme devant les Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il faudra souffrir pour mon nom. » Ananias partit. Lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il posa les mains sur lui et dit « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. » Au même moment, il tomba de ses yeux des écailles et il retrouva la vue. Il se lève et reçoit le baptême et après avoir pris de la nourriture, il retrouve ses forces. Il reste quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et aussitôt, il se met à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Et maintenant, dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, comment Paul raconte ce qu'il a vécu. « Je connais un homme dans le Christ. Voici 14 ans. Était-ce dans son corps ? Je ne sais pas. Était-ce hors de son corps ? Je ne sais pas. Dieu le sait. » Un tel homme fut enlevé jusqu'au troisième ciel. Et je sais qu'un tel homme, était-ce dans son corps ou sans son corps, je ne sais pas, Dieu le sait, fut enlevé au paradis et qu'il entendit des paroles ineffables, qu'il n'est pas permis à un homme d'énoncer. Je serais fière d'un tel homme, mais de moi-même, je ne serais pas fière, sinon de mes faiblesses. Si je voulais faire le fier, je ne serais pas déraisonnable, car je dirai la vérité, mais je m'en abstiens, de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit ou entend de moi, à cause de l'excellence de ses révélations. Aussi, pour que je ne sois pas trop orgueilleux, il m'a été donné une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me frapper, pour que je ne sois pas trop orgueilleux. Trois fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a répondu, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je mettrai donc bien plus volontiers ma fierté dans mes faiblesses, pour que la puissance du Christ repose en moi. Aussi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les désarrois, dans les persécutions et les angoisses pour le Christ. En effet, c'est quand je suis faible que je suis fort. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Amen. Alors c'est vrai que, en général, Paul n'a pas très bonne presse. Alors merci à vous d'avoir choisi ce verset de l'Épître aux Galates qui est quand même tout à fait étonnant et réjouissant, où Paul nous dit « Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, nous sommes tous un en Christ. » Alors j'aurais pu prêcher sur ce, mais je l'ai fait il n'y a pas si longtemps. Donc aujourd'hui, j'ai choisi donc Paul. Paul, cet homme qui nous agace, qui nous bouscule, et en tout cas qui ne laisse personne indifférent. Sa réputation est assez mauvaise, il faut l'avouer. On le dit autoritaire, conservateur, misogyne, et plein de choses qui lui collent à la peau. Bon, on va voir que c'est un peu différent. Et en réalité, on a toujours envie de régler nos comptes avec l'apôtre Paul. Mais, en fait, si on fait une lecture attentive des lettres de Paul, on découvre une richesse qui jamais ne nous déçoit. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai lu ici, sa version de sa conversion est tout à fait touchante. Personnellement, je la trouve beaucoup plus... Elle me parle plus que le récit qu'en fait le livre des Actes, ou les récits, puisqu'il y a trois récits. Parler en « je », parler de soi, tel que Paul le fait, c'est quelque chose qui me touche profondément, parce que, en même temps, il cherche à asseoir son autorité tout au long de ses lettres et à dire « c'est moi le meilleur, c'est moi qu'il faut écouter ». Et en même temps, il confesse ses faiblesses. Et puis finalement, j'aime assez Paul parce qu'il a été appelé, et puis c'est grâce à lui qu'on est ici, parce que certes, le Christ est essentiel, mais s'il n'y avait pas eu Paul derrière pour construire l'Église, probablement que nous ne serions pas là pour, enfin vous pour m'écouter, moi pour parler, et que vous seriez ni chrétien, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu Paul, et pourtant, au départ, c'était pas gagné pour lui. Je dirais même que pour prêcher, pour enseigner aux chrétiens, c'était probablement le plus mauvais. Enfin, il y en avait d'autres qui devaient être mauvais, mais il était vraiment perdant. Et parce que, qu'en est-il de Paul? Vous l'avez entendu, au départ, il est juif. Bon, de nombreux juifs sont déjà chrétiens. Mais surtout, il persécute les chrétiens. Il part faire le tour du bassin méditerranéen pour aller persécuter les chrétiens dans les synagogues, pour les chasser et pour les remettre aux autorités du coin. Enfin bon, donc, on ne peut pas dire que choisir son pire ennemi ça, pour... en faire quelqu'un qui vient à ses côtés, ce n'est pas l'idéal. Ensuite, Paul, il a un gros handicap par rapport aux autres apôtres. D'ailleurs, certains, c'est étonnant, qui ne connaissent pas très bien la Bible, me disent « Ah bon, Paul ne fait pas partie des 12 ». Non, Paul ne fait pas du tout ni partie des 12, ni même de ceux qui ont suivi Jésus, qui sont plus ou moins anonymes. Il ne fait absolument pas partie de cela. D'ailleurs, il le dit, il n'a jamais rencontré le Christ de son vivant. Il aurait pu, il était encore très jeune, mais il aurait pu. Eh bien, Paul n'a jamais rencontré le Christ, et pourtant, il se réclame de cette rencontre. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous parler également. Parce qu'il n'a pas rencontré le Christ vivant, mais il a fait cette vraie rencontre, en vérité, du Christ dans sa vie. à travers ce récit que vous avez entendu. Donc, on pourrait dire que Paul a quelques handicaps. Et puis, il en a encore après, parce que visiblement, il le dit, on ne sait pas exactement ce qu'il en est, mais là, il nous parle d'une écharde qui l'empêche de vivre pleinement. Il est d'une santé fragile, il souffre dans son corps, il souffre aussi dans son esprit, dans son âme, mais pour d'autres raisons, en réalité. Donc, Paul, eh bien, il a tout pour ne pas être ce qu'il est devenu. Et pourtant, c'est lui. C'est lui qui a été choisi et c'est lui qui va accomplir cette mission. Pour moi, c'est une magnifique leçon de vie que cet homme qui était un puissant, parmi les puissants au niveau dans le monde juif dans lequel il était, eh bien, accepte de détourner sa vie et puis d'en faire tout à fait autre chose. Il aurait pu, Paul, se présenter après, avec tous ses handicaps, comme victime. Vous savez, c'est quelque chose qui me tarabuse beaucoup en ce moment, quand on entend les discours tout le temps. Tout le monde se présente comme victime. Souvent d'ailleurs, même les coupables se présentent comme victimes. Et finalement, se présenter comme victime, se victimiser, c'est assez confortable. Et puis, ça permet aussi d'être un peu pervers aussi. Cela m'ennuie beaucoup. J'aimerais, et c'est à mon avis un des messages essentiels du christianisme, c'est quand même quand on est au plus bas, même quand on se croit perdant et tout, eh bien, de ne pas se croire victime. En effet, on peut souffrir, on peut être victime, mais ce qu'il faut, c'est essayer de sortir de ce statut-là. À mon avis, c'est essentiel. Et aujourd'hui, on est dans un monde où on enferme les gens dans ce statut. C'est quelque chose que je trouve tout à fait étonnant. Je suis aumônier de prison. Et finalement, quand je vais visiter les personnes qui sont en détention, ce phénomène de victimisation est quelque chose qui me parle. Alors évidemment, la détention, c'est épouvantable. Et on fait tout en plus pour les victimiser. Mais la plupart sont avant tout coupables. Et peut-être que pour s'en sortir, au lieu d'être victime, c'est de voir en quoi on est coupable. Et ce qui est encore plus dur, c'est quand on rencontre les victimes, les vraies, c'est elles qui se sentent coupables. Alors c'est là que les choses deviennent renversées et deviennent assez pervers. En tout cas, pour en revenir à Paul, eh bien, je vous invite à le lire et ne pas le lire en surface. Vous le savez, nous le disons dimanche après dimanche, une lecture attentive, une lecture exigeante, c'est vraiment quelque chose aussi de très important. Et là, je parle aussi à ceux qui sont les plus jeunes, eh bien, savoir lire, mais savoir lire vraiment, pas comme ça, en tournant les pages et puis en oubliant un peu ce qui s'est passé avant. Essayez de voir les ressorts d'un récit, les ressorts d'un discours, et puis ce qu'il en est, et puis de voir ce qui est essentiel et ce qui est moins important. Par exemple, chez Paul, c'est vrai qu'il a une image des femmes, bon, Louis a prêché dessus il n'y a pas très longtemps, donc qui n'est pas très sympathique, nous semble-t-il, pour nous. Mais si on le remet dans le contexte, eh bien, finalement, on s'aperçoit que Paul, eh bien, aime bien les femmes, et au contraire, il essaye de les faire sortir de leur statut. Donc, il faut faire très attention quand on lit. Ce que j'aimerais, ce dont on se souvienne de Paul et de ses écrits, c'est des passages extraordinaires, comme ce qu'il dit dans la lettre aux Galates, ce qu'il dit à la fin de la première, du 13e chapitre, de la première épître aux Corinthiens. L'amour, maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. L'amour est le plus grand. Et puis, toujours dans la lettre aux Corinthiens, la deuxième, chapitre 3, lorsqu'il dit « La lettre tue et l'esprit fait vivre ». C'est bien ça. Il ne faut pas lire Paul à la lettre, mais il faut lire Paul rempli de cet esprit qui nous mène à la vie. La lettre tue. Comment on peut entendre encore ça aujourd'hui? Combien les lectures littérales, fondamentalistes, peuvent tuer, d'ailleurs de manière symbolique, mais aussi de manière tout à fait physique. Donc, l'apôtre Paul attend à nous apprendre. Mais je voudrais revenir à ce récit de sa conversion. Alors, dans ce qu'il nous raconte, en réalité, il nous dit qu'il a une écharde dans sa chair. Cette écharpe, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est, si ce n'est symboliquement que, en réalité, puisque c'est au cœur même de sa théologie, c'est porter un bout de la croix du Christ. Nous rappeler cette écharpe dans notre chair, que nous aussi, nous sommes responsables de la mort du Christ, c'est-à-dire de la mort des autres, des hommes et des femmes qui souffrent et à qui nous ne tendons pas la main. Mais Paul va plus loin. Il n'est pas question de culpabiliser parce que lui, sa conversion, au contraire, l'envoie vers les autres. L'envoie prêcher. L'envoie prêcher quoi ? Qu'est-ce qu'il dit, Paul, toujours dans la lettre aux Galates ? Eh bien, il n'y a qu'un seul commandement. Aimer son prochain comme soi-même. Donc, Paul, il est même assez radical. Aimer son prochain comme soi-même. C'est une des rares paroles du Christ qu'il répète, d'ailleurs. Donc, Paul part prêcher. Aimer l'amour et aimer les autres de manière extrêmement exigeante. Parce que l'amour qu'a Paul pour les siens, pour ceux qu'il va rencontrer à Corinthe, à Galate, à Rome, à Éphèse, à Thessalonique, un peu partout dans le bassin méditerranéen, ben je peux vous dire qu'il les secoue. Il ne les laisse pas en disant ben « c'est mes pauvres, il n'y a pas de problème, vous êtes persécutés, donc c'est essayer de… » Enfin, il n'essaye pas de les ramollir, mais au contraire, il leur dit « allez-y, prêchez ». Peu importe les dangers, peu importe ce qui vous arrive, la vraie chose à faire dans votre vie, c'est de prêcher, de vous lever et d'aller de l'avant. Il les secoue. Et puis, je pense que c'est cela aussi. Aimer vraiment, c'est être capable de secouer les autres et de se secouer aussi, de temps en temps. Mais pour revenir à la conversion de Paul, il y a plusieurs petites choses qui me semblent essentielles. Déjà, Paul, il ne descend pas de cheval. J'en suis désolée, mais il va descendre de son piédestal où il se croit tout puissant. Paul, il est tout puissant. Il est le meilleur parmi les Juifs. Il fait tout bien. Et c'est vrai que quand on nous impose énormément de rites et uniquement du rite dans les religions, on peut arriver à faire tout bien. Ah, c'est pas facile, hein. Faut reconnaître, je vais pas dire, allez, faites tout ce qu'il y a marqué, et puis tout ira bien. Non, c'est pas facile, mais c'est faisable. Mais en réalité, Paul va descendre de son piédestal et va s'apercevoir. Il va s'apercevoir que, eh bien, nous ne sommes pas tout-puissants. De par nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire tout ce qu'il faut pour répondre à ce message, à cet appel d'amour. Eh bien, nous n'y arrivons pas seuls. Nous avons besoin d'un autre, nous avons besoin de Dieu, et nous avons besoin également des autres. Il va descendre de son piédestal, il n'est pas tout-puissant. Et puis, petit à petit, on s'aperçoit que son chemin va être contrarié. On parle de conversion, mais d'abord, c'est une sorte d'inversion. Il va être contrarié. D'abord, il est stoppé, là, au milieu du chemin, entre Jérusalem et Damas. Il ne peut plus avancer. Lui qui allait persécuter, et puis surtout lui qui était tout-puissant d'un seul coup, eh bien, il est complètement dépendant des autres. Il ne voit pas. Il n'est même plus capable ni de manger ni de boire. Il est tellement perdu que seul, il ne pourrait s'en sortir. Il fait cette expérience, oui, j'ai besoin des autres. C'est cela aussi, à mon avis, ce qui est essentiel dans le message de l'Évangile et que Paul va reprendre. Il est là, il est seul, il a besoin des autres. Et que pour s'en sortir, pour ne pas rester enfermé, eh bien, on peut s'appuyer sur Dieu, mais on peut s'appuyer également sur les autres. Et puis, Paul est encore contrarié, parce que lui qui est inversé, on va dire, puisque lui qui doit aller persécuter les chrétiens, devient lui-même persécuté. Il devient tellement persécuté que juste après cet épisode, on nous le dit, quand on apprend qu'il est là et puis qu'il commence à prêcher, eh bien, d'autres vont chercher à le persécuter et il va falloir qu'il fuit Damas de manière assez étonnante, voire un peu ridicule, dans un panier d'osier. Il est sorti de la ville. Ainsi, on voit que la conversion de Paul, ce qu'on appelle la conversion, c'est plutôt un itinéraire contrarié. Mais nos vies sont aussi des itinéraires contrariés. Et puis, de temps en temps, il faut toujours essayer d'être un peu comme Paul, tomber de notre piédestal parce que ne plus être dans la toute-puissance, mais non plus ne pas tomber dans ce statut de victime et d'être complètement le contraire de la toute-puissance. C'est essayer d'avoir les deux. C'est d'ailleurs ce qu'agace chez Paul, cette espèce d'orgueil qu'il met en avant. Orgueil, et puis d'ailleurs même, lorsqu'il se confie pour dire ses douleurs, il dit « moi, je pourrais me prévaloir de... » Je le fais pas. Enfin, comme il l'a dit, il l'a un peu fait, donc on peut le trouver un peu agaçant. C'est essayer de voir quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, mais surtout de savoir que nos faiblesses peuvent devenir des forces. C'est exactement cela que fait et que nous dit Paul. Et pour terminer, puisqu'on est juste le dimanche après Pâques, je voudrais dire que ce récit du chemin de Damas de Paul est un vrai récit de résurrection. Et ça, on peut l'entendre pour nous aussi. On retrouve exactement le même vocabulaire que la résurrection. Paul a été relevé. Être relevé, c'est ressusciter. Et puis d'un seul coup, il a retrouvé la vue. Mais ce n'est pas de lui-même qu'il a retrouvé la vue. C'est un autre, c'est Dieu qui lui rend la vue. Ainsi, Paul est complètement soumis à Dieu qui le relève, qui lui donne un regard nouveau sur le monde. C'est cela aussi, être ressuscité. C'est vraiment l'expérience que fait Paul de cette rencontre avec le Christ, de cette rencontre de résurrection. Oui, nous aussi, dans nos vies, déjà, aujourd'hui, maintenant, on peut faire cette expérience, on peut être relevé. Et puis, évidemment, le récit en rajoute une couche, parce qu'il faut bien qu'on comprenne, hein, parce qu'on est un peu borné des fois. 3 jours et 3 nuits, il va rester sans manger et sans boire. 3 jours et 3 nuits qui nous rappellent le passage de la croix à la résurrection. Ainsi, avec Paul, nous avons l'exemple, j'aime pas trop ce mot-là, mais tout de même, l'exemple d'un homme. Mais nous pouvons aussi nous projeter, trouver nos échardes, nos faiblesses, mais faire que ces faiblesses ne soient pas là pour nous enfoncer, pour nous couper des autres, pour nous couper du monde. Avec ces faiblesses, il faut savoir en faire une force. Alors oui, bien sûr, faire des faiblesses une force, cela est possible, mais à une condition, c'est faire confiance aux autres et faire confiance à Dieu. Amen.